là, je peux parler sans interruption jusqu'à 16h15, c'est ça, hein? Alors, ça fait trois fois que je fais la même blague dans le week-end, il faut que je me recycle un peu. Alors, je ne sais pas si on veut pouvoir avoir le PowerPoint, qui n'est plus tout à fait à jour. Mai 19, j'ai mis à jour le PowerPoint, mais j'ai oublié de changer la date. Est-ce qu'il y avait aussi, je crois, un temps de questions-réponses à un moment donné? Vous voulez qu'on fasse ça sur peut-être un échange? Est-ce qu'on fait ça maintenant? Est-ce qu'on fait ça? J'ai oublié de te demander s'il y avait des questions par rapport à ce que j'ai dit hier soir, ce matin, sur Arocha. Plutôt après. Salut. Alors, peut-être, je ne sais pas, c'est vous qui me dites après. Bon, d'accord. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous présenter rapidement le label Église Verte. Alors, j'ai un petit PowerPoint que je ne vais pas complètement suivre. Est-ce que par hasard, vous auriez une télécommande ou il faut que je te dise à chaque fois? Non, il faut que je te dise à chaque fois. Bon. On va commencer avec le PowerPoint et puis je vais... comme en plus, je n'ai pas de retour sur écran, quelle est la... on va découvrir le PowerPoint. Si tu veux bien aller à la suivante. Ça permet de... Alors, bon, c'est un PowerPoint, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mes collègues qui travaillent sur Église Verte. Donc je vais passer un petit peu sur la première partie, puisqu'on en a déjà parlé dans les... Enfin, Élisée en a déjà parlé au cours des dernières prédications, et puis on a aussi abordé un peu ces sujets hier soir et ce matin. Hop. C'est moi qui agis là ou c'est... Voilà, donc ça c'est pour rappel un petit peu de quelques textes fondamentaux sur les textes de la Bible qui nous incitent à prendre soin de la création de Dieu. Voilà, donc avec des extraits aussi de Laudato Si, qui est l'encyclique du pape François sur l'écologie, qui est paru en 2015. Voilà. Donc je passe assez rapidement sur. On voit aussi qu'il y a des Jean Calvin et Martin Luther qui ont contribué non pas à la fondation de l'Église verte, mais aux fondements théologiques qui soutiennent ce label. Et puis donc ça c'est pour expliquer que en fait le label Église verte, il est né d'abord d'une initiative de Arocha en Angleterre. Donc Arocha est une association, comme je vous l'ai dit, ou je ne sais plus trop ce que j'ai dit ce matin, hier soir, mais donc c'est une association internationale, donc qui travaille dans 25 pays du monde. Et il y a notamment une branche, donc chaque pays est un peu autonome, donc en France on a des initiatives autonomes, et dans d'autres pays ils ont aussi d'autres initiatives, et notamment donc en Angleterre ils ont lancé il y a une vingtaine d'années un programme qui s'appelle Eco Church, qui est derrière en fait Église Verte, c'est-à-dire qu'on a importé la quasi-totalité de ce que est Eco Church, on l'a un petit peu adapté au modèle français, mais c'est directement du plagiat avec leur accord de Arocha, Grande-Bretagne. En fait, l'initiative d'Église Verte, elle est partie en France après la COP21. Donc, je ne sais pas si vous, il y a un pointeur. Voilà. Donc, pendant la COP21, ici, vous voyez, il y avait une initiative qui s'appelait le Jeune pour le Climat. Donc, vous reconnaîtrez, là, c'est le président de la Fédération protestante de France, et ici, c'est Nicolas Hulot. Et ici, c'est un certain Yeb Sanyo, qui était délégué des Philippines à la COP20. Et qui était pendant qu'il y avait la COP, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, excusez-moi, la COP, c'est les conférences sur le climat qui ont lieu chaque année. Là, il y en a une qui va commencer dans quelques jours à Madrid. Elle devait avoir lieu au Chili et finalement, à cause des événements au Chili, elle est rapatriée à Madrid. Et donc, en 2015, il y a eu une réunion à Paris très importante, puisque l'objectif était de fixer justement des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre
avec donc c'était vraiment une réunion particulièrement importante parce que c'était un point clé des négociations. Dans le cadre de la COP21, juste avant la COP21, donc il y a eu une initiative qui avait été lancée qui s'appelait le Jeûne pour le climat, qui incitait les personnes qui se reconnaissaient concernées par le changement la question du changement climatique et qui voulaient également donc s'engager avec leur foi de prendre un jour par mois, le premier jour du mois, pour jeûner, façon d'exprimer aussi donc leur préoccupation pour les questions climatiques. Et donc ce jeûne pour le climat avait été lancé en 2015. À Rocha, on avait organisé, nous, en parallèle avec la conférence, une grande conférence sur le climat dans une église au cœur de Paris. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là, il y avait plus de 200 personnes évangéliques qui étaient là. On avait vraiment ciblé le monde évangélique, et c'est de cette conférence qu'est sorti un livre que vous trouvez derrière au stand de librairie qui s'appelle « Évangile et changement climatique ». Donc c'est des communications qui avaient été faites à ce colloque qui ont été reprises dans ce livre. Voilà. Et donc, à la fin de la COP21, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant pour conserver ce mouvement qui est lancé dans les églises. Il y a eu beaucoup de mobilisation, et c'est là qu'est née l'idée d'importer l'idée de Eco Church et de lancer un label Église verte dans les églises en France. C'est normal que ça saute comme ça à chaque fois, ou c'est bon. Voilà, donc c'était pour expliquer que donc Eco Church, c'est le programme qui a été directement l'inspiration de l'Église verte, mais on voit qu'il y a d'autres initiatives qui existent. Ça, c'est Coq Vert en Suisse, et le réseau des Églises vertes, ça c'est au Canada. Donc il y a déjà des initiatives similaires qui existent dans d'autres pays. Alors toute cette mobilisation, ce travail préparatoire a culminé donc dans le lancement du label Église verte, donc en septembre 2017 à Paris, avec plus de 200 participants vous pouvez retrouver donc sur le site internet d'Église verte différentes vidéos qui ont été filmées le jour de ce lancement. Voilà. Alors, je vais aussi passer un peu plus rapidement sur cette partie-là, mais vous verrez que donc l'idée, c'est de vraiment mobiliser les chrétiens en France. Comme on dit souvent, l'Église, c'est la plus grande ONG du monde. Si on arrive à mobiliser les églises, même si c'était une partie seulement de l'Église, sur l'écologie, on devient la force de frappe en termes de mobilisation, en termes d'adhérents, la plus importante de la planète, puisque le christianisme est la foi la plus répandue dans le monde. On a donc une capacité, si on arrive à convaincre les chrétiens que la conversion à Jésus-Christ et la conversion écologique, c'est la même chose, en fait, c'est les deux facettes d'une même d'un même engagement pour l'amour du prochain et l'amour de Dieu, on pourrait déplacer des montagnes. Vous avez des questions à ce stade ou je continue? Alors, le label Église verte, donc il y a trois objectifs. C'est d'abord de commencer à réfléchir et à intégrer cette dimension écologique dans la vie de l'Église quotidienne, je dirais. Donc il s'agit d'abord de se mettre en chemin et de pouvoir progressivement générer des fruits, mais pas vouloir forcément tout faire du premier coup, mais vraiment s'inscrire dans la durée. Alors, l'essentiel de tout ce que je vais vous présenter, vous le retrouvez sur le site internet d'Église Verte, qui est donc égliseverte.org. Mais si vous tapez Église Verte dans votre moteur de recherche favori, vous tombez dessus normalement en première position. Vous verrez, on va donc aujourd'hui passer un peu de temps sur l'éco-diagnostic, puisque dans une deuxième partie, après cette petite présentation préliminaire, on va travailler ensemble sur un questionnaire qui est là pour vous aider à réfléchir, à vous poser des questions sur la vie d'église et sur l'implication de l'écologie dans la vie d'église. Alors, ça c'est cette slide, cette diapositive explique un petit peu les étapes à suivre pour rentrer dans cette démarche. Alors aujourd'hui, on va brûler un petit peu certaines étapes, mais c'est parce que vous êtes déjà bien avancé dans l'Église aussi sur ces questions. Donc, le principe numéro un, c'est de regrouper un groupe de 2 ou 3 personnes minimum qui partagent les mêmes préoccupations et qui ont envie d'avancer au niveau de l'Église. Deuxième étape, c'est d'obtenir l'accord des responsables de votre communauté pour entreprendre une démarche Église verte. Donc, typiquement, allez voir le président du conseil de l'Église. Et ou le pasteur, en général c'est mieux d'aller voir les deux, et de leur parler de votre projet et d'obtenir leur accord. Je crois qu'ici, ils sont assez d'accord, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Ensuite, il faut s'assurer que vous avez accès aux moyens de communication de l'Église, tout simplement parce que vous allez avoir besoin d'inviter les membres de l'Église à participer à des réunions, à participer à des initiatives. Et donc si la personne qui gère la communication ne veut pas vous permettre d'accéder à l'email de l'Église ou je ne sais comment vous communiquer, ça posera problème. Mais évidemment, si vous avez l'accord des responsables, normalement celui qui s'occupe de la communication ne devrait pas s'opposer. Il faut donc commencer par faire au moins une réunion dans votre église. Donc là, ici, on est bien dans ce cas-là puisque vous avez déjà fait plusieurs réunions, temps de prière et actions concrètes pour le respect de la création. Voilà. Alors une fois que vous avez fait cette démarche, vous allez contacter en fait un de mes collègues qui travaille au niveau des courts-maîtres, puisque dans mon équipe celui qui gère le réseau Église Verte, qui gère les contacts Église Verte. Donc en fait l'idée c'est de rentrer en contact avec lui, il va vous expliquer toute la démarche par téléphone, on prend un rendez-vous téléphonique, et ensuite il va vous inviter à remplir le fameux diagnostic et éco-diagnostic qu'on va remplir ensemble aujourd'hui. Alors vous verrez que dans l'éco-diagnostic, il y a 5 parties qui comportent chacun un nombre variable de questions, entre 10 et peut-être 40 questions. En tout, il y a 80 questions. Il y a des domaines qui sont plus touffus que d'autres. Donc le premier, c'est donc la célébration et le catéchèse. Vous verrez, on va retrouver toutes ces questions dans le questionnaire qu'on va remplir ensemble. Il s'agit de répondre, il y a plusieurs possibilités de réponse, et de répondre du mieux que vous pouvez à ces questions. J'ai oublié de montrer. Ensuite, là, on a la deuxième catégorie, c'est sur les bâtiments. Alors, dans certains cas, bon, là, si j'ai bien compris, vous êtes propriétaire de vos bâtiments, c'est ça? Donc là, vous pouvez agir. Dans certains cas, il y a des églises qui ne sont pas propriétaires de leur bâtiment ou qui ne peuvent pas faire grand-chose. Si vous êtes dans une cathédrale du XIIe siècle, vous n'allez pas commencer par isoler la façade par l'extérieur mettre un faux plafond. Hein. Donc, on est limité, mais si vous avez accès si vous pouvez agir sur les bâtiments, vous pouvez remplir cette partie. Il y a une partie qui concerne le terrain. Donc ici, vous avez aussi un petit terrain. Donc là, c'est une invitation à réfléchir à qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce terrain, soit pour favoriser la biodiversité, soit pour proposer des jardins partagés. Enfin, il y a plein d'idées hein, en fonction de la taille du terrain, en fonction de votre temps, etc. Une rubrique engagement local et global. Donc là où on va retrouver des questions autour de est-ce que vous organisez par exemple des événements autour de la sauvegarde de la création dans votre église. Une dernière catégorie, mode de vie, où là les questions ça portera peut-être sur est-ce que vous avez envisagé de mettre en place du covoiturage pour venir au culte le dimanche? Est-ce que vous favorisez la vaisselle non jetable pour les repas d'église? Donc tout ça, je sais que vous y réfléchissez déjà, donc vous allez avoir plein de bonnes réponses à toutes ces questions. Et vous allez être encouragé parce que donc vous allez pouvoir voir, une fois que vous avez fini la réponse au questionnaire, vous pourrez vous retrouver avec différents niveaux de labellisation. Ça part de graines de CNV, c'est en fait le niveau que tout le monde obtient à partir du moment où vous avez simplement répondu aux questions préalables et le formulaire d'inscription. Donc les questions préalables, c'est ce que je vous avais montré sur la diapositive avant, c'est-à-dire d'avoir constitué un groupe, d'avoir vu les responsables d'église, etc. Et remplir le formulaire. Attendez, je suis là. Remplir le formulaire d'inscription. Donc ça, vous l'avez peut-être pas encore fait, mais ça pourrait être fait facilement. Et puis en fonction, si vous avez plein de entre guillemets bonnes réponses aux questions, c'est-à-dire que si vous êtes déjà engagé dans une démarche Église verte, avancez, vous pourrez obtenir un niveau de label qui va donc jusqu'à Cèdre du Liban, qui est pour ceux qui sont vraiment qui ont répondu quasiment au meilleur scénario dans toutes les questions à peu près. Je vous rassure, pour l'instant en France, il y a 350 communautés qui sont engagées et il n'y a aucun Cèdre du Liban. Nous-mêmes, dans le centre dans lequel je travaille, on est aussi engagé dans ce label Église verte, et nous-mêmes, on n'est que au niveau figuier, qui est le 4, c'est marqué niveau 4, mais en fait, c'est parce que ça commence à 0. Oui, c'est ça. C'est marqué niveau 3, mais en fait, c'est le niveau 4, quoi, on va dire. Voilà. Alors, sur le site internet, vous trouverez également des tas de fiches pratiques. Qui propose des modes d'emploi qui permettent de mettre en place les actions qui sont évoquées dans le questionnaire. Alors par exemple, puisque ce matin on a parlé de consommation, vous pourrez trouver des fiches pratiques pour vous aider à consommer mieux, consommer de façon plus équitable, de réfléchir à l'impact de la consommation sur l'environnement et sur nos prochains. Et voilà, donc vous avez des fiches que vous pouvez télécharger, que vous pouvez consulter, qui vous donnent des conseils très pratiques. Vous avez aussi des fiches, donc ça c'est quelques exemples, il y en a une dizaine de fiches comme ça, ou même plus sur le site internet, et elles sont complétées régulièrement. Donc voilà, exemple de fiches pratiques pour favoriser la biodiversité, typiquement dans les jardins autour de l'église, par exemple. Et même si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez quand même mettre des mangeoires pour les oiseaux, aux fenêtres, ou d'autres initiatives. Voilà. Vous avez aussi donc sur le site internet des exemples remarquables de communautés chrétiennes qui font des actions qui peuvent servir d'inspiration pour vous qui allez vous plonger dans ce processus. Et bientôt, voilà, vous aurez des retours d'expérience en ligne. Donc ça, je ne sais pas exactement comment ça va fonctionner, mais vous pouvez aller voir sur le site internet quand ça se mettra en place. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ? Alors, sachant que j'ai oublié de dire, peut-être, ou je ne sais plus ce que j'ai dit, que c'est donc une démarche qui se veut œcuménique. C'est-à-dire que c'est Arocha donc, qui a été à l'origine de cette initiative au départ, au travers de Echo Church en Angleterre, mais en fait c'est une initiative qui est portée par la Conférence des évêques de France, par la Fédération protestante de France et par les églises orthodoxes. On essaie d'obtenir du CNEF, donc le Conseil national des évangéliques de France, de s'associer aussi au projet. À titre personnel, Arocha fait partie du CNEF. On est œuvre du CNEF et on est aussi œuvre de la FPF, la Fédération protestante de France. On fait partie des... Je ne sais pas si vous êtes une église qui est dans les deux fédérations aussi, parce qu'il y a des églises évangéliques qui sont que au CNEF, ou que Perspective n'est que au CNEF, c'est ça ? D'accord. Donc nous, on fait partie des... On mange à tous les râteliers, si vous voulez. On est dans les deux structures. Mais donc, pour l'instant, le CNEF n'est pas complètement engagé dans cette initiative, mais on essaie de les convaincre de rejoindre le mouvement. Le fait que ça soit œcuménique n'est pas pour favoriser le... Voilà. Alors, il y a un réseau... un réseau donc d'églises vertes qui s'est mis en place. Vous voyez que à l'heure actuelle, donc ça fait 2 ans qu'on est lancé, et il y a plus de 350 églises qui sont, enfin donc on appelle ça des communautés églises vertes. Pourquoi ? Parce que c'est pas seulement des églises. Il y a aussi ça peut être des écoles catholiques, des centres diocésains, des ESAT qui peuvent aussi s'inscrire. À partir du moment où il y a il y a une dimension chrétienne, ils peuvent éventuellement rejoindre le mouvement. Bon, la majorité, ce sont des églises, mais il y a quelques autres anomalies. Je vous parlais notamment du centre où je travaille, où on est aussi labellisé Église verte, même si en réalité, on n'est pas une église. Et vous avez une carte de France qui montre où sont ces églises. Et là, j'ai fait un petit zoom sur Nancy pour confirmer ce que disait Dominique tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à Nancy, pour l'instant, il n'y a qu'une seule paroisse qui est engagée dans la dimension Église verte, qui est la paroisse une paroisse catholique, Le Bon Sauveur, ça s'appelle, je crois. Le Bon Pasteur, oui, c'est ça. Mais je crois par contre que sur le diocèse ou l'évêché, je ne voudrais pas dire de bêtises, de Metz, qui a été traditionnellement très engagé dans l'écologie grâce à Jean-Marie Pelt, que vous connaissez peut-être, et aussi parce que Jean-Marie Pelt avait convaincu l'évêque qui ensuite est parti à Troyes de s'engager dans cette démarche écologique. Donc le Monseigneur Stinger, qui était président de Pax Christi France, était très engagé dans ces questions. En 2014-2015, c'est plus lui maintenant qui est, je crois, à la tête de ça. Mais en tout cas, pour dire qu'à Metz, il y a eu beaucoup d'églises catholiques. Je crois que toutes les églises catholiques du diocèse sont engagées dans ce processus automatiquement. Enfin, faudrait que je redemande à mon collègue. Il m'avait parlé de ça. J'ai pas enregistré tous les détails. Mais est-ce que ça te dit quelque chose? Non, tu sais, tu es pas au courant. D'accord. Bon. Voilà, alors il y a aussi des rencontres régionales organisées par Église Verte à différents lieux pour permettre à tous les acteurs de ce mouvement Église Verte de se rencontrer au cours d'assises régionales. Donc ça permet de mettre en lien, de créer du lien entre différentes communautés chrétiennes qui se retrouvent autour de ces valeurs de protection de la création. Voilà, donc avec des affiches de différentes rencontres. Alors, dans le cadre de l'Église catholique, il y a aussi donc l'Église catholique a mis en place ce qu'ils appellent des référents diocésains à l'écologie intégrale. Ce sont donc par diocèse des personnes qui sont un petit peu responsables de coordonner tout ce qui concerne ces actions autour de l'écologie au sein des diocèses catholiques. Alors, il n'y a pas ça, évidemment, au sein des églises évangéliques, mais au sein d'Arocha, on est en train de réfléchir aussi à la création d'un réseau d'ambassadeurs, de personnes, pas spécialement sur Église verte, mais sur toutes les questions de sauvegarde de la création, et qu'on espère donc former dans les prochains mois. Donc, avis aux amateurs, on va faire des... On va lancer ce réseau d'ambassadeurs, des gens qui seront amenés à pouvoir aller parler dans les églises qui auront besoin, enfin qui aimeraient organiser des discussions, des débats autour de la protection de la planète. Et donc on organise pour ces formateurs des sessions de formation pour former des ambassadeurs, hein, 2 Timothée 2:2, sur ce que je t'ai enseigné, enseigne aux autres pour qu'ils puissent eux-mêmes l'enseigner. Donc on voudrait former des ambassadeurs. Et vous voyez par exemple ici, donc on a un séminaire connaître, prier, agir pour la création, qui était donc un séminaire pour les ambassadeurs Église verte, mais qui était organisé au Courmet l'année dernière. Voilà, ça c'est le genre d'initiative qu'on fait. On organise régulièrement des formations au Courmet. Donc les Courmets, c'est le centre pour lequel donc je travaille dans le sud de la France, à côté de Nice, où notre vocation c'est justement d'être un centre de formation pour tous les personnes, tous les chrétiens qui s'intéressent à ces questions. Est-ce que vous avez encore des questions? Je crois qu'on est à la fin. Ah non, oui. Oui. Un appel? J'ai pas compris. Ah, le label. Ah, excuse-moi. Je crois pas que ça soit déjà arrivé parce que ça fait pas tellement longtemps que c'est lancé. Donc, en général. Oui, alors c'est ça. Tous les ans, normalement, il faut refaire l'éco-diagnostic pour voir comment vous avez progressé dans la. Voilà. Alors, je crois pas qu'il y ait eu de personnes qui se soient retrouvées, éjectées, entre guillemets, du processus, mais on pourrait imaginer que ça puisse arriver éventuellement. Voilà. D'autres questions ou... Non ? Alors, organisation institutionnelle et financière. Donc, ça, je vais passer assez rapidement, ça vous intéresse peut-être moins. Il y a un comité de pilotage, donc, qui est un groupe de personnes qui sont nommées par différents acteurs donc, de ce réseau Église verte, donc la Conférence des évêques de France, la Fédération protestante de France, les orthodoxes, le Conseil d'Église chrétienne en France et différents partenaires, donc le CCFD, le Comité catholique contre la faim pour le développement, le Secours catholique et le CERAS, je ne sais plus ce que c'est le CERAS, je crois que c'est un centre jésuite à côté de Paris. On a un groupe de parrainage donc avec différentes associations et mouvements qui soutiennent la démarche. Et la mise en œuvre est faite donc par à la fois Arocha, c'est-à-dire c'est nous qui gérons la partie opérationnelle. Donc concrètement, si vous faites un don à l'Église verte, en fait, ça passe par nos comptes à nous. Donc vous pouvez recevoir un reçu fiscal. Et on prend une partie du don, 8%, en fait, pour gérer nos frais structurels de mise en œuvre, etc. Ce qui correspond au coût réel, hein, c'est-à-dire on ne fait pas de bénéfices là-dessus. Avec un autre partenariat, c'est une personne qui s'appelle Laura Morosini qui a créé une association qui est elle catholique et donc qui a une parité entre guillemets protestants et catholiques. On est deux à gérer. Donc elle travaille plutôt à la rédaction des fiches pratiques, etc. Et puis voilà, donc les églises vertes qui sont les communautés locales chrétiennes qui sont engagées dans la démarche. Alors, comment le projet est financé? Parce que tout ça, ça coûte de l'argent, le site internet, il y a donc deux salariés à temps partiel. Le financement, donc, il a d'abord été institutionnel, avec donc ces différents acteurs que j'ai déjà mentionnés, qui ont chacun mis au pot pour faire une mise de départ, et aussi d'ailleurs Arocha, qui a contribué sur fonds propres à lancer le mouvement en finançant. Il y a aussi donc des comités de parrainage avec des associations et des mouvements qui ont financé. Et puis, dès 2020, il faut absolument... Là, les financements institutionnels s'arrêtent. Donc là, on va compter sur la participation financière des églises engagées dans la démarche. Alors, pour l'anecdote, on s'était fixé comme objectif, quand on a commencé à réfléchir à ce label Église verte vers 2015-2016, on s'était dit si on a 100 églises qu'on rejoint le label en 3 ans on sera déjà content. Et là en fait en 2 ans on est déjà à 350 églises qui nous soutiennent, enfin qui sont engagées dans la démarche. Voilà, alors donc là c'est pour vous montrer un petit peu les finances, bon je vais pas insister, on a eu cet été un peu des craintes sur le financement, la pérennité du financement, donc on a lancé un appel à toutes les communautés déjà engagées à dons, et on a reçu pas mal de réponses positives, donc les choses se sont améliorées du niveau financier, voilà. Voilà, écoutez, c'était pour terminer sur un psaume et vous dire que c'était à vous de jouer. Donc, si vous voulez bien, je vous propose qu'on passe maintenant aux travaux pratiques. Donc, ce qu'on a imaginé avec Dominique et avec Élisée, c'était de vous proposer de travailler directement sur le fameux éco-diagnostic, donc le questionnaire. Donc je vous rappelle le but, c'est donc on va passer en revue en tout, il y a 80 questions. Et le but de ce diagnostic, c'est pas de se culpabiliser en disant ben non, ça on fait pas bien, etc., etc. Enfin peut-être que vous faites tout juste parfait, mais si c'est pas le cas, le but c'est vraiment pas de se culpabiliser, c'est vraiment au contraire de se dire on fait tel truc et on n'a jamais pensé à faire autrement, mais voilà une idée qu'on pourrait prendre, et de vraiment réfléchir ensemble sur comment est-ce qu'on peut aller vers une prise de conscience de ces enjeux dans l'Église, avec pas l'ambition de vouloir tout faire non plus du premier coup. Et puis je vais dire ça parce que Dominique m'a donné un chèque pour que je puisse le dire, c'est qu'il ne faut pas que ça soit porté par les responsables de l'Église, il faut que ça vienne de vous. Je plaisante, hein, évidemment. Non, mais j'ai dit ça hier spontanément et ça lui a plu. Il m'a dit il faut que tu le répètes. Voilà. Donc non, c'est vrai que les responsables d'église, que ce soit le pasteur ou les présidents d'assemblée en général, ils ont vraiment pas beaucoup de temps. Donc c'est vraiment important qu'il y ait, mais je crois que c'est déjà le cas dans votre église, vous êtes déjà un petit groupe bien formé, donc c'est vraiment important que ça soit porté, que ça soit pas porté que par les responsables, que ça soit pas les responsables qui imposent ça à, entre guillemets, aux membres de l'église, mais que ça soit vraiment les membres de l'église qui portent ça et qui soient, voilà. Alors concrètement, je sais pas comment on fait pour les questions, et ça serait peut-être pas mal que l'un de vous note les réponses aussi. Ou alors je le fais en fait, peut-être ça peut être moi qui lis les questions et je prends juste un stylo et je note au fur et à mesure je coche les. Ça vous va de faire comme ça? Alors il va y avoir un peu toutes sortes de questions. Il y a des questions techniques, il y a des questions beaucoup plus générales. Mais même si on bloque sur des questions techniques, on pourra toujours y revenir. Et surtout, ça permet à tout le monde de prendre conscience aussi des enjeux globaux de l'Église. Parce que souvent dans les églises, on a une responsabilité. Tiens, on est à l'accueil, ou on est chargé de l'entretien de la chaudière, ou on est chargé de la louange. Et en fait, on n'a pas forcément une image globale de tout ce qui se passe dans l'Église. Donc c'est aussi l'opportunité de se rendre compte, ah oui, tiens, en fait, on pourrait chauffer différemment, plus tard, plus tôt. Enfin voilà. Donc ça va être, je pense, un exercice. Soyez patients s'il y a des questions qui ne vous semblent pas vous concerner, parce que je pense que ça pourra quand même vous concerner. Oui. Oui. Oui, je pense que toi, ça sera précisé dans les questions. Si, mais en, oui, le référentiel, ça peut être l'année passée. Ouais. Je pense que c'est la plupart du temps. Donc, je vais commencer par la section célébration et catéchèse. Première question. La célébration de certains dimanches est particulièrement dédiée au respect de la création. Entre parenthèses, le temps pour la création, la fête des récoltes, etc. Au fait, je suis en train de penser à quelque chose. Tu as un accès à Internet sur ton ordinateur? Parce qu'en fait, peut-être le mieux, ça serait d'afficher les codiagnostics directement. Tu viens d'éteindre justement le projecteur. Désolé. Comme ça, vous les verrez tous en même temps que moi. Ça sera peut-être plus facile. Tu vas sur égliseverte.org. Et tu verras, il y a marqué quelque part assez en évidence éco-diagnostic, et tu peux choisir celui en PDF, parce que le Excel, il n'est pas facile à afficher à l'écran. Donc, pour revenir à ma question, donc la célébration de certains dimanches est particulièrement dédiée au respect de la création, le temps pour la création, fête des récoltes, etc. Et donc, les réponses possibles sont les suivantes. Plusieurs fois par an, au moins une fois par an, moins souvent, jamais, ou ne savons pas encore. Donc, quelle est la bonne réponse? Plusieurs fois par an, au moins une fois par an. Alors, prenez le référentiel de l'année dernière. Hein? Oui, mais bon, le fait est que vous l'avez fait cette année, donc je pense qu'on peut répondre plusieurs fois par an, pour le coup. Alors, question suivante. Les cantiques, entre parenthèses, textes, prières, chants, gestes et signes, des célébrations évoquent la création. Alors, pareil, plusieurs fois par an, au moins une fois par an, moins souvent, jamais ou ne savons pas encore. Ouais. Le respect de la création est un sujet de prière de la communauté, au moins une fois par mois. Moins souvent, jamais, ou ne savons pas. Moins souvent, c'est quoi la réponse? Moins souvent qu'une fois par mois. Bravo. Alors, la question numéro 3, ben alors, peut-être que du coup, je ne vais pas les lire à chaque fois, hein, pour... Non, on en est à la 4, d'ailleurs. Oui. Ben là, par exemple, ce matin, vous avez fait, ça a été, il y a eu deux prières qui ont été lues. Donc, ce matin, oui, donc c'est pas jamais. C'est moins souvent qu'une fois par mois. Voilà. Donc, c'est moins souvent. Alors, la question 4 maintenant. Alors, vous voyez que le vocabulaire reflète le fait que c'est pour des communautés catholiques, protestantes, évangéliques. Hein. Donc, d'ailleurs, j'ai oublié de dire que dans le label Église verte, il y a à peu près 70% de paroisses catholiques, une vingtaine de pourcents de paroisses protestantes et à peine 5%, je pense, de paroisses évangéliques. Donc, c'est bien que vous soyez présents. Voilà. Alors, le respect de la création est abordé dans les prédications au moins une fois par mois, moins souvent. Vous pouvez mettre plus souvent, trois fois par mois. Alors, la question 5. Notre communauté invite des chrétiens engagés dans le domaine de l'écologie pour parler de ce sujet. Ça, c'est une question sponsorisée par Arocha. Alors, plusieurs fois par an, au moins une fois par an, moins souvent. Au moins une fois par an ? C'était qui était venu l'année dernière ? Une rencontre œcuménique ? Donc je mets au moins une fois par an. C'est pas complètement précis hein, comme question, mais bon, voilà, on fait au mieux. Le thème de la création est abordé dans les catéchèses des enfants. Une fois par an. Donc au moins une fois par an. Bon, ben c'est bien. Bravo. Alors, le thème du respect de la création est abordé dans l'animation jeunesse, catéchisme ou aumônerie. Plusieurs fois par an. Ouais. La création est abordée dans la catéchèse pour les adultes et ou comme sujet d'étude en petit groupe, étude biblique, groupe de maison. Alors on est en train de préparer actuellement un petit fascicule qui sera disponible pour les groupes de maison justement. Parce que ça c'est quelque chose qui manque. Moins souvent. Tout le monde est d'accord avec ça ? Les supports de communication de la communauté. Bulletins, feuilles de sémination, sites internet, médias sociaux abordent le thème de la création. Moins souvent. Les responsables de la communauté se sont engagés à intégrer la dimension écologique en nommant un groupe formel pour accompagner le processus Église verte. Oui, parce que tout à l'heure, j'ai peut-être été un petit peu vite en besogne. J'ai dit que vous étiez d'accord, mais est-ce qu'il y a eu une discussion formelle à ce sujet ? Non, pas vraiment. Donc, je ne réponds pas à cette question et vous devrez y répondre dans les prochaines semaines, prochains mois. Avez-vous réalisé autre chose dans le domaine spirituel que vous souhaitez nous dire ici ? Ah oui, non, mais je pense que c'est en lien avec la sauvegarde de la création. Ben, vous pouvez lancer un alpha écologie, peut-être, mais. Parce qu'il y a les alpha couples, les alpha enfants, alpha fiancés. Bon. Si vous avez quelque chose, vous pourrez le rajouter. Alors, on va passer au bâtiment maintenant. Alors, la communauté dispose-t-elle d'un bâtiment dont elle est responsable? Bon, ça c'est oui. Alors, mise en place de suivi de vos consommations d'énergie et ou calcul de l'empreinte carbone de vos bâtiments. Bon, ok, donc on répond non, mais... Alors, la communauté a mis en place des objectifs ou des moyens de réduction de l'empreinte carbone de vos bâtiments et améliorer votre efficacité énergétique. Vous n'avez pas procédé à des isolations, changement de fenêtres Donc a priori non, à part les joints aux fenêtres. La communauté a mis en place une compensation carbone de l'empreinte que vous ne parvenez pas à réduire et ou des transports routiers et aériens. Ça c'est une autre question sponsorisée par Arocha parce qu'on a un partenaire enfin qui est une émanation d'Arocha qui fait de la compensation carbone, c'est-à-dire quand vous prenez l'avion, vous pouvez donner... alors, il vous calcule automatiquement combien ça coûte, et ça permet de planter des arbres ou de créer des filtres pour permettre aux personnes qui sont dans des zones rurales, souvent en Afrique ou dans certains pays du Sud où il n'y a pas d'eau potable, de filtrer l'eau. Et en quoi ça, vous allez me dire, quel est l'impact carbone? C'est qu'en fait, les gens, s'ils n'ont pas ces filtres, ils sont obligés de couper des arbres pour faire du charbon de bois, pour chauffer de l'eau, qui leur permet de purifier l'eau. Voilà, donc, à travers de programmes comme ça, on permet de compenser du carbone. Voilà. Bon, c'est discutable. Je compare souvent ça à la vente d'indulgence, pour la construction de Saint-Pierre de Rome, Martin Luther, ce qui a déclenché la réforme, c'est la vente des indulgences qui a, enfin, je fais des raccourcis un peu historiques, mais qui a été un processus mis en place par l'Église pour vendre le salut, en fait, en disant si vous donnez de l'argent pour la construction de Saint-Pierre de Rome, vos péchés seront remis. Donc là, c'est un même principe. Les péchés environnementaux sont rachetés par Arocha pour vous soulager votre conscience et planter des arbres. Voilà. Donc, a priori, non. L'électricité qui alimente vos bâtiments provient tout ou partie d'énergie renouvelable, Enercoop ou autre, ou d'un tarif vert. Bon, j'ai un collègue qui travaillait avant pour EDF qui me dit que c'est un petit peu pareil, hein, c'est un petit peu limite comme question, parce que quand on connaît le réseau de distribution d'énergie, bon, mais bon, l'écologie c'est compliqué. Nous avons pris contact avec les pouvoirs publics pour améliorer l'isolation ou les chaudières de notre communauté. Non. Êtes-vous propriétaire de vos locaux? Donc ça c'est oui. En matière d'efficacité énergétique, la chaudière de nos bâtiments est classée, si ce n'est pas écrit, un ingénieur peut le déterminer, donc il faut choisir entre les différentes... Est-ce que vous avez une idée? Bon, ben on va attendre la réponse. Alors maintenant, le local 1, donc le lieu de culte. Alors ce local est isolé, donc je pense que c'est cette salle notamment. Est-ce que le local est isolé? Mur et plafond? Mur ou plafond? Pas du tout, ou nous ne savons pas. Vous savez si le local est isolé? Oui, on dirait qu'il y a de l'isolation, et sous les lambris. Et puis dans les murs? Ça a l'air moins sûr. Les murs n'ont pas l'air isolés, hein. Quelqu'un a la réponse ou pas?
Oui, mais parce que ces permissions-là et les deux portes-là, c'est des vrais passoires.
D'accord. Donc, je mets pas du tout, mais il y a quand même de l'isolation, il y a quand même le toit à l'air isolé. Hein. Bon, je mets mur ou plafond. Hein, c'est... Alors, les fenêtres de ce local sont-elles équipées de double vitrage ? Oui. Partout donc, hein, je mets partout. Même du... Ah d'accord, mais ça je pense pas que c'est d'impact... Alors, quel type d'ampoules sont utilisées pour l'éclairage de ce local ? Donc c'est a priori aucun LED et basse consommation, hein. C'est tout des néons. Donc pour l'efficacité énergétique, vous savez pas, hein, c'est ça ?
C'est marqué EcoTech Plus, alors tu peux mettre A. Moi, c'est A, B, B.
Ou je mets ne pas, nous savons pas encore. Si... C'est une chaudière à condensation ? Tu sais pas ce que c'est qu'une chaudière à condensation ? Si ? Non ? Bon. Bon alors... Pour cette question, je ne réponds pas pour l'instant et vous essayez d'en savoir plus. Alors, local 2, par exemple, salle de réunion. Vous avez une salle de réunion en dessous. Le local est isolé. Alors, est-ce que vous savez, c'est la même chose, mur ou... Non, on est au local 2, là. Ouais, on est au local 2. Donc, est-ce que le local 2, donc est-ce qu'elle est isolée ? Pas du tout, mur et plafond. Donc, mur ou plafond, double vitrage partout. Et des ampoules ? Néon. Ok. Et le local 3, le logement, alors je ne sais pas si c'est le logement du pasteur, peut-être ? Il n'y en a pas ? Bon, alors ça, je ne réponds pas. Alors, nous avons une politique destinée à limiter l'énergie consommée par l'éclairage de nos bâtiments. Consigne, dispositif automatique. Non. Là, on parle de l'éclairage, hein. Nous veillons à ce que toutes les veilles, chauffe-eau électrique et lumière soient éteintes lorsqu'elles ne sont pas utiles, par exemple la nuit. Nous connaissons notre consommation d'eau et son évolution. Le trésorier n'est pas là, c'est ça, parce que j'ai l'impression que c'est lui qui connaît beaucoup de réponses. Nous récupérons l'eau de pluie. Nos toilettes sont équipées d'une double chasse. Nous utilisons du papier recyclé pour les toilettes. Les produits de nettoyage des locaux sont-ils éco-responsables ? Ça n'existe pas. C'est pas une réponse, pas encore. Alors pour l'instant, c'est non, mais je sens que le papier recyclé dans les toilettes et le nettoyage des locaux va bientôt être modifié. Alors, les couverts, assiettes et gobelets utilisés sont toujours réutilisables, souvent réutilisables, biodégradables ou jetables. Ben, réutilisable aussi, c'est, là c'est ce que vous avez utilisé, c'était, voilà. Sauf qu'il y a des verres en plastique. Ah, alors ça va. Donc on va mettre quoi, souvent réutilisable là, je pense. Hein, si... D'accord. Ben oui. Toute la question est si on regarde le verre en plastique à moitié plein ou à moitié vide. D'accord. Bah, je pense qu'à partir du moment où vous en êtes conscient et que vous avez mis ça en place, à partir de maintenant, ça va être souvent réutilisable. Donc on peut remplir ça. Alors, nous compostons nos déchets. Oui, non. Nous réduisons notre utilisation de papier là où c'est possible. Si, si, il est là. Courrier par mail, programmation de l'imprimante en recto verso, 2 pages par feuille. Oui ou non? Donc oui. Alors, nous utilisons du papier recyclé. Je pense que c'est dans le cadre de l'église, donc peut-être réfléchissez à acheter du papier recyclé pour les prochains, quand vous rachetez du papier, quoi. Mais est-ce que, là, je pense qu'on parle de deux choses différentes, c'est réutiliser le verso de papier, donc ça c'est de la réutilisation, mais je pense que là c'était la question de est-ce que vous achetez du papier recyclé. C'est-à-dire qu'on peut acheter du papier, au lieu d'acheter du papier blanc ordinaire, on achète du papier qui est recyclé en fait, qui est neuf mais qui est déjà du papier qui a été réutilisé de d'autres sources. Donc là c'est non, a priori vous n'achetez pas de papier recyclé. Nous veillons à utiliser Internet de façon responsable et à limiter le stockage des données numériques. Est-ce que vous utilisez Internet de façon responsable en limitant le stockage des données numériques, par exemple ? Donc, je pense que ça fait référence, par exemple, aux boîtes mail. Est-ce que vous videz vos boîtes mail de toutes les pièces jointes ou des choses qui consomment de l'énergie, comme on l'a vu hier dans le quiz. Hein, les emails, ça utilise pas mal d'énergie quand ils sont stockés dans des serveurs comme Gmail, etc., qui sont accessibles de n'importe où dans le monde. Donc, est-ce que vous avez limité ? Non, c'est dans le cadre de l'église. Moi aussi, si ça peut vous rassurer, enfin vous rassurer ou peut-être pas, mais c'est vrai que je trouve ça, c'est embêtant de détruire des emails parce que souvent ça, on peut s'en, des fois quelques années plus tard, donc moi j'ai le même dilemme. Hein, donc, on peut stocker en local, effectivement, mais pas si on est sur Gmail, et moi j'ai mon boulot, mon email de boulot, alors ça c'est. Bon, c'est vrai que. Ah. Bah, tu vois, ça, je n'étais pas conscient de ça. Ok, bah donc. Enfin, nous en fait, c'est Arocha, hein, mais les emails Arocha, en fait, c'est Gmail derrière. Donc, bon, en tout cas, on met oui. Vous êtes, en fait, la question, je pense, c'est est-ce que vous étiez conscient de l'enjeu, quoi, hein, c'est déjà ça. Donc, on met oui. Au cas où nous projetons des travaux d'ampleur, nous veillerons à respecter un label BBC, donc bâtiment basse consommation, qui réduira fortement nos émissions polluantes. Bon. Nous disposons d'un stationnement pour les bicyclettes. Non ? Alors, l'éco-diagnostic est fourni avec une paire de gants de boxe, enfin même deux paires, pour permettre de régler les différends qui peuvent naître en fonction des réponses aux questions. Donc, oui ou non ? C'est pas adapté. Un dispositif de tri est mis en place dans le bâtiment. Partout, en grande proportion, par endroit, non. Donc, non. Donc, par endroit. Nous produisons notre eau chaude par un chauffe-eau solaire. Nous produisons de l'énergie par une source renouvelable. Quand vous effectuez des travaux, faites-vous appel à des prestataires en position de vous conseiller sur l'impact environnemental. Nous ne savons pas encore. Avez-vous réalisé une autre chose dans le domaine bâtiment que vous souhaitez nous dire ici ? Thomas a quelque chose à dire. Alors on va passer sur le terrain maintenant. Alors, votre communauté possède-t-elle un espace extérieur dont elle a la gestion ?
Oui.
Ce terrain est géré de manière à développer la biodiversité.
Non.
Ah, il y a un hôtel à insectes. J'aurais pas dû accepter ce rôle de celui qui prend les notes parce que j'entends. Donc c'est oui ou c'est non ? Il y a. Ah. D'accord. Bon alors je mets non pour le moment. Alors, ce terrain comporte des emplacements, parce que je pars du principe que celui dont vous avez la responsabilité, si j'ai bien compris, n'est pas bien géré, et celui qui est géré par la mairie est bien géré, c'est ça ? Non, je plaisante, je fais de la provocation, exprès. Alors, ce terrain comporte des emplacements pour la culture de fruits, légumes ou aromatiques ? Donc, non, hein ? Alors, est-ce que vous avez des jardins partagés ? Non. Vous comprenez qu'à travers toutes ces questions en apparence innocentes, c'est aussi une suggestion de réfléchir à la possibilité de mettre en place des jardins partagés. Notre communauté encourage ses membres à utiliser ce terrain pour le ressourcement et la contemplation. Entre deux barres d'immeubles, c'est sympa quand même pour. Contemplation du verre de pastis, donc. Ah oui, c'est vrai. C'est la Mirabelle, alors. Mais en apéro, la Mirabelle, non, plutôt en digestif. Hein. Ah bon, en apéro aussi. Non, c'est ça ? Pas de place, ou peut-être pas de place, en fait, parce que c'est peut-être plutôt ça le problème. Les déchets biodégradables sont compostés sur le terrain ou à un autre endroit. Et ça, vous pourriez peut-être assez facilement mettre ça en place, parce que je ne sais pas si c'est le cas à Nancy, mais dans à peu près toutes les villes de France, vous pouvez obtenir un bac à compost gratuit. Et en plus, ça réduirait beaucoup vos déchets, donc je pense que ça vous y gagneriez en manutention. Et... Ah bah vous, alors là, un bac à compost, vous pouvez déjà y aller avant de le remplir et qu'il déborde. Hein. Ah bah c'est pas grave. Au moins, il reste sur place et c'est pas incinéré.
Si on met des déchets de
nourriture,
par exemple des déchets de viande,
on va attirer. Alors, ouais, non, il faut pas. Effectivement, il faut. C'est vrai, mais ça permet aussi de justement de former les gens, c'est ça qui est intéressant. Mais vous pouvez mettre des explications écrites. Bah vous mettez des dessins alors, parce que vous avez un bon dessinateur dans votre église. Donc non, hein, c'est ça ? Avez-vous réalisé autre chose dans le domaine terrain que vous souhaitez nous dire ? Comment ? D'accord. Alors, notre communauté organise des événements permettant à des citoyens de parler d'écologie avec les responsables politiques et associatifs. On passe dans l'engagement local et global. Oui, vous aviez invité des personnes extérieures à l'église. Donc, oui, je suis bien aussi un responsable associatif. Donc, c'est effectivement, on peut dire au moins une fois par an ? Non ? Donc, si c'était l'année dernière plus cette année, ça fait une fois par an. Notre communauté interpelle les élus locaux sur les questions environnementales. Non ? Donc jamais ? Notre communauté permet à des spécialistes de l'environnement de prendre la parole lors de célébrations. Alors, quelle réponse ? Alors, célébration, je pense que déjà, ça veut dire culte, en fait. C'est un terme générique pour, puisque c'est un questionnaire œcuménique protestant catholique. Donc là, je pense qu'ils veulent parler des cultes du matin, du dimanche matin. Moins souvent. Événements de sensibilisation à l'environnement. Projection de films, par exemple. Alors, est-ce que vous travaillez avec des associations locales de protection de l'environnement ? Personne, mais vous avez bien des membres qui collaborent à des organisations de protection de l'environnement, non ? Oui, mais vous voyez, il y a la réponse des membres, oui. Donc vous avez bien des membres, ne serait-ce qu'au sein de la Rocha, il y en a d'entre vous qui sont sympathisants. ça veut dire que vous êtes soit bénévole, soit effectivement que vous participez d'une manière ou d'une autre par des dons, oui. Donc il y a des membres qui font ça. Je connais des donateurs d'Arosa dans cette salle, donc ça marche comme réponse positive. Notre communauté organisée ou participe à une action communautaire, nettoyage de printemps, semaine du développement durable, journée du vélo.
Avec
Espérance, c'est quoi? C'est une... dans le cadre de Bouche-ta-Ville, non, c'est pas ça?
Oui.
D'accord. Donc au moins une fois par an, oui. Ou plusieurs fois par an. Alors, notre communauté organise des événements permettant aux habitants de sortir dans la nature et de la contempler. Exemple, marche, explorateur, randonnée, sortie à vélo. Ouais. Ah, aux habitants, oui, non, ça implique que c'est... Vous emmenez jamais des jeunes, par exemple, parce que ça compte aussi. Vous organisez pas des activités, par exemple, pour sortir les jeunes. Voilà. Donc, je pense que ça rentre dans... Du coup, ça serait quoi, plusieurs fois par an? Parce que tous les membres des flambeaux sont pas tous des enfants, des membres de l'église, si? Il y a aussi des jeunes extérieurs. Ouais, donc ça marche. Hein. Est-ce que vous soutenez l'autopartage et le covoiturage? Donc l'autopartage, ça serait l'idée que, par exemple, plusieurs d'entre vous se mettent en commun pour acheter une voiture ou mettent en commun une voiture et la partagent, au lieu d'avoir chacun individuellement une voiture. Et le covoiturage, vous connaissez. Donc non? Donc le covoiturage, oui. Oui, ok. Ouais, c'est vrai, oui. Oui. Ouais. Mais peut-être vous pourriez faire un sondage, voir s'il n'y a pas plus de besoins que ce qui se fait spontanément. Mais en tout cas, voilà, c'est fait. Mais... Ouais. Ouais, donc c'est fait, c'est pris en compte. Alors, les repas proposés par la communauté proviennent de la production locale. Oui. Je pense que c'est dans le cas dans certaines églises, par exemple, ils font quand ils font des sorties d'église, ils vont acheter ou je sais pas quoi, ils vont acheter au supermarché des trucs tout faits, par exemple. Donc c'est pas votre cas visiblement. Vous faites plutôt de la cuisine. Voilà. Alors les repas proposés par la communauté sont préparés à partir de produits issus de l'agriculture biologique. Ouais. La viande provient d'élevages respectueux des animaux. Parfois. Mais au moins, enfin, encore une fois, ce genre de questions, c'est vraiment déjà pour... Voilà, l'idée, c'est qu'il y en a qui savent même pas, parfois, bon, c'est bien de moins en moins fréquent, mais qui savent même pas ce que veut dire cette question, en fait. Enfin, c'est-à-dire, il y a des gens qui se posent pas du tout la question. Donc au moins, là, vous voyez d'où vient le problème. Les repas proposés incluent, il y a une faute d'orthographe, un menu végétarien ou végan. Alors, végan, vous savez tous ce que c'est ? C'est pas de produits animaux du tout, donc pas d'œufs, pas de lait, pas de miel, etc. Donc, est-ce que vous avez des options vegan ou végan ? Ouais. Donc, à midi, par exemple, un végan, vegan, aurait pu... Oui, ouais, bien sûr. Oui, puis d'ailleurs, la question, c'est sur le menu végétarien ou vegan. Ouais, ok. Notre communauté encourage la réduction de l'utilisation des ressources d'énergie, par exemple affichettes rappelant d'éteindre les lumières ou campagnes d'information.
Si on rappelle de fermer les
Notre communauté promeut activement le label Église verte auprès des autres paroisses et des églises locales. Là, c'est une question sponsorisée par Église verte. Non, donc pour l'instant, non. Alors, notre communauté prie pour les enjeux d'écologie locaux. Bah, par exemple, est-ce que ça vous arrive de prier pour, je sais pas, un parc dans le coin qui est dégradé et de demander, enfin, c'est pas forcément un bon exemple, hein, mais plutôt, disons que si vous aviez une pollution de la rivière, ou alors, tiens, voilà, une idée là qui me vient. J'étais avec Dominique hier, il me disait que vous aviez des problèmes de tramway qui montent pas. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à l'idée de prier pour ce sujet qui peut finalement empoisonner la vie? J'en sais rien. Hein, ça peut être une source d'ennui pour pas mal de gens et on pense c'est peut-être des enjeux auxquels on pense pas forcément à prier. Mais la prière est d'une grande efficacité. Donc visiblement ça vous a pas trop traversé l'esprit. Donc jamais. Alors, on va voir s'il y a une question à ce sujet plus tard. Mais notre communauté a décidé de prier pour un ou plusieurs projets spécifiques au loin. Donc, vous pouvez prier pour Arocha. Non, c'est pour... là, c'est toujours en rapport avec la sauvegarde de la création. Hein, donc, c'est pour des projets... On parlait du Ghana, il y a des personnes de la communauté qui sont originaires du Ghana. En ce moment, c'est ce que je leur expliquais, il y a un grand enjeu au Ghana avec une forêt qui est protégée par Arocha et il y a des Chinois, des compagnies chinoises qui veulent exploiter cette forêt pour du minerai de bauxite. Il y a une grosse campagne qui a été lancée. Il y a quelques jours, il y a Leonardo DiCaprio qui s'est engagé aussi pour protéger, qui a publiquement pris la parole pour encourager les gens qui essaient de s'opposer à cette exploitation du minerai dans cette forêt. Mais c'est le genre de projet sur lequel la prière, c'est important aussi de prier pour ça, pour la protection de ces sujets. Et donc, je vous ai dit aussi, si vous voulez, vous pouvez vous inscrire à notre lettre de prière où justement on prie régulièrement pour ces différents sujets. Alors, notre communauté transmet les nouvelles d'autres communautés chrétiennes au loin touchées par les dégradations de l'environnement et les changements climatiques. Jamais. Notre communauté soutient financièrement une action de solidarité internationale. Alors là, je pense que c'est pas spécifiquement environnement. C'est vous soutenez le sel peut-être, non? D'accord. À chaque fois que cela est possible, notre communauté utilise des produits issus du commerce équitable. Parfois. Oui, non, parfois. Notre communauté participe à des campagnes nationales ou internationales pour l'environnement. Journée de la Terre, Semaine de la Mobilité, Semaine du Développement Durable, Journée de la Transition. Jamais ? Notre communauté participe à des campagnes chrétiennes pour le développement durable. Campagne de carême du CCFD, Terre solidaire, Journée du sel, Carême pour la Terre. Journée du sel, vous le faites? Tous les ans? Donc c'est quoi? C'est au moins une fois par an? Alors, notre communauté présente à Dieu dans la prière nos manquements à l'égard de la création blessée et lui demande de continuer à travers nous le chemin de libération vers la terre promise. Non. Non. Avez-vous réalisé autre chose dans le domaine? Il y a une deuxième erreur dans ce, c'est dans le domaine. On était quoi là? On n'était pas dans le domaine terrain. On était dans le domaine engagement local et global. Vous avez fait d'autres choses? Ouais. Donc ça, ça a été. Vous avez hier, par exemple, vous avez fait quand même toute une journée animation pour les jeunes, avec des quiz, avec des animations que vous aviez préparées spécifiquement. Donc ça, ça peut. Mmh. Ok. Je rajoute scout plus journée du. On était le combien hier? Du 23-11 avec les jeunes. Alors, mode de vie. Nous avons nommé une personne ou un groupe pour promouvoir l'intérêt de notre communauté ecclésiale à devenir plus verte. La marche et le vélo sont encouragés. Oui. Ouais, ne remuez pas la plaie autour du couteau. La communauté encourage à réduire ou optimiser l'usage de la voiture. Les membres de notre communauté sont encouragés à s'interroger sur leur empreinte écologique personnelle. Au moins une fois par an? Moins souvent? Notre communauté encourage ses membres à réduire leur propre consommation d'énergie. Bah, occasionnellement quand même, puisque hier on en a parlé, hier aujourd'hui. Et puis vous allez maintenant le faire beaucoup plus régulièrement, c'est sûr. Bon, on arrive à la fin, donc rassurez-vous. Dernière page de questions, sur 8. Notre communauté encourage ses membres à limiter leurs déchets en respectant la règle des 4 R. Réduire, réutiliser, réparer, recycler. Régulièrement? Mmh. Donc je mets régulièrement à la E6. Occasionnellement. Alors là, maintenant la suivante. Notre communauté organise des activités ou événements qui facilitent le recyclage ou la réutilisation des biens. Vide-grenier, bourse d'échange et de dons. Donc, qu'est-ce que je mets? Régulièrement. Notre communauté encourage ses membres à utiliser des aliments de production locale, biologique, respectueuse des animaux et issus du commerce équitable. Bah là, ce week-end, on a parlé de ça. Je vous ai même exactement dit ça en fin de prêche ce matin. Parce que je vous ai encouragé exactement à utiliser des aliments locaux, biologiques, respectueux des animaux et issus du commerce équitable. Mais oui, mais donc du coup, c'est pas jamais. Voilà. Ouais, donc ça, c'est bien occasionnellement. Peut-être pas régulièrement, mais l'année prochaine, ça va l'être. Notre communauté agit avec des partenaires ou d'autres organisations pour mutualiser les achats alimentaires ou autres, permettant à ses membres d'acheter en vrac, à prix gros, des produits d'origine éthique. Proximité, AMAP, équitable. Mais ça, c'est pareil. c'est quelque chose de, que vous pouvez envisager de mettre en place s'il y a des AMAP dans les environs, par exemple. Vous savez ce que c'est une AMAP?
Ouais.
D'accord. Ben dans certains cas, les AMAP, ça peut être... dans certains cas, ils cherchent des lieux de dépôt, par exemple. Et donc ça, ça peut être l'occasion. Alors ça, c'est aussi une super occasion de faire rentrer des gens dans l'église qui n'ont absolument aucune habitude de rentrer dans l'église. C'est un sacré témoignage aussi. Donc ça peut être aussi quelque chose à réfléchir. Donc je mets quoi? Je mets non. L'investissement éthique de l'épargne personnelle est encouragé par notre communauté. Non. Le fonds de notre communauté sont, les fonds de notre communauté sont investis dans des fonds éthiques. Des conseils pratiques et des incitations concernant la création et l'écologie sont inclus dans nos newsletters sur le site web ou affichés. Non. Jamais. Okay. Dans le cadre de notre vivre ensemble, les membres de notre communauté sont invités à réaliser un audit environnemental sur le style de vie. Jamais. Notre communauté encourage à réduire l'usage des mails et autres surconsommations du web et surtout des stockages importants sur les data centers. Avez-vous réalisé autre chose dans le domaine mode de vie et que vous souhaitez nous dire ici? C'est bon? Voilà, bah écoutez, vous avez un peu grillé les étapes par rapport à la procédure normale, puisque normalement ça commence par un entretien avec mon collègue, mais vous avez un éco-diagnostic qui est prêt, qui a été en plus réalisé par toute l'église, donc ça c'est chouette. Et il y a juste 2-3 points à vérifier et vous pouvez avec ça obtenir très rapidement, si vous le souhaitez, votre niveau de labellisation. Et à vue de nez, vous n'allez pas être tout en bas, du fait que vous avez répondu quand même à pas mal de points positifs. Donc je ne sais pas où vous serez à quel niveau, mais... Voilà. Alors je ne sais pas à qui je remets cet éco-diagnostic rempli. Alors, si vous aviez des. Enfin, je crois que c'était ça l'idée, c'était de faire un temps de questions-réponses par rapport à ce que j'ai pu dire hier soir, ce matin ou cet après-midi, ou d'autres points qui vous démangent sur l'écologie. Et je ferai de mon mieux pour.
On vous écoute.
Une question sur le colibri, peut-être. Voilà. Oui.
Réponse, c'est moi. Alors, c'est un point de départ et un point de réflexion. On savait que ce logo existait, on ne savait pas trop toutes les conséquences qu'il pourrait y avoir si on s'engage derrière cette étiquette. Voilà, donc maintenant, on va y réfléchir et voir sur. C'est une évaluation. Après, voilà. Alors, est-ce que c'est en église, en conseil, avec le groupe qui a motivé ce week-end? Je n'ai pas toutes les réponses.
Ce serait bien faire, je ne sais pas si ce sera à la prochaine réunion de conseil ou plus tard, que le comité qui vient de naître là, avec l'écologie, plus que vous y rencontrez, plus que vous le sentez, si vous avez aussi des sujets sur la tête. Comme ça, nous pourrions en tout cas réfléchir à ça. Pas les sujets que vous avez à réfléchir, mais avec une rencontre avec vous. Thank you.
je remercie le comité d'avoir invité Jean-François. Mais je trouve que c'est une très bonne idée, une bonne lancée, un bon démarrage. Je
remercie. Oui.
J'avais une remarque générale dont je découvre un peu en détail la réalité. Parce que je trouve intéressant que ce n'est pas un label qu'on a.
Une question très pratique. Combien d'églises ont abandonné leur projet après le questionnaire? Parce que c'est un petit peu écrasant, je trouve.
Pardon.
Oui, je demandais à Jean-François combien d'églises ont abandonné après s'être évaluées par ce questionnaire, parce que c'est plutôt écrasant, démoralisant, tellement de choses ne sont pas faites. Voilà.
Alors, j'ai pas la réponse à ta question, mais en fait, je pense que tu dis que c'est écrasant. En fait, là, vous avez fait le boulot. En fait, le travail, c'est de faire le questionnaire, et à la limite, je dirais, vous pouvez vous arrêter là. Hein, c'est-à-dire que, enfin, évidemment, le but, c'est pas de s'arrêter là. C'est-à-dire, le but, c'est de se dire, bon, ben, dans la liste des 80 questions qu'on a lues, est-ce qu'il y a, pour l'année prochaine, se fixer l'objectif de faire deux ou trois choses, commencer par les choses les plus simples. Donc, là, je crois clairement le parking à vélo. Non, je suis dedans. Oui, non, mais je plaisante. De faire quelques pas en avant et entre guillemets, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Enfin, je veux dire, bien sûr, l'invitation, c'est d'aller plus loin, mais faire par étapes pour justement pas que ça soit écrasant. Donc, je pense, pour répondre à ta question, qu'il n'y a aucune église qui abandonne à ce stade, dans le sens où soit ils abandonnent avant et qu'ils trouvent que le questionnaire est trop lourd à remplir. Mais à partir du moment où ils ont rempli le questionnaire, s'ils le renvoient, ils sont dans le label, déjà.
D'accord. Merci.
Oui, je voulais savoir s'il est possible de prévoir un temps comme un forum, par exemple, cette année, en 2020, pas en 2019, mais en 2020, pour parler de ces questions-là, pour voir comment on peut progresser. Parce que sur une ou deux questions, comment répondre. Oui, c'est une
question.
Ou est-ce que c'est une réflexion
uniquement
du conseil?
Le forum est prévu maintenant au mois de janvier. On pourrait inclure, je pense, ce sujet dans ce forum. Dans cette réunion de partage.
Oui, c'est une réunion de partage après la GAP. Et on dit un peu ce qu'on souhaite dans notre vie, c'est l'orientation.
Super.
Voilà, ouais. Donc, un échange.
Est-ce que, là j'ai une question, est-ce que le processus d'abeille existe là? Générer des divisions au sein de l'église, des divisions intergénérationnelles ou plus théologiques. Est-ce que vous avez eu en fait des églises qui ont vécu des divisions ou des tensions dans ce processus?
Alors je suis pas en première ligne parce que c'est pas moi qui m'occupe de ça au quotidien, il faudrait que je demande à mon collègue. J'ai pas eu de retour de ce genre de choses. Ça peut éventuellement arriver effectivement que certains dans l'église soient pas du tout en phase avec ça, qu'ils estiment que c'est peut-être cédé à une mode du monde. Ça existe certainement. Après, ne rien faire, c'est aussi éventuellement créer de la division, parce que il y a aussi des jeunes, à l'inverse, enfin je dis des jeunes, mais ça peut être des moins jeunes, hein, qui peuvent dire, bah, moi l'Église s'intéresse pas à ce sujet-là, qui est ma préoccupation numéro un, et donc moi je m'en vais, quoi. Ils vous le diront d'ailleurs pas forcément, hein, mais ils partiront simplement, ils feront ce qu'on appelle voter avec les pieds. Voter avec les pieds. C'est-à-dire qu'on s'en va, quoi. Donc la division, elle peut arriver n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel sujet. Je pense que ce qu'il faut, c'est bien accompagner et bien prendre le temps d'expliquer pourquoi on fait ça et ne pas hésiter à débattre avec les gens qui pourraient être ne pas être d'accord. Et prendre vraiment le temps d'expliquer la démarche, de trouver au minimum un mode de consensus. Ouais. Je pense aussi que l'écologie peut être un outil de rapprochement d'église aussi. Donc c'est typiquement un bon outil pour travailler en partenariat avec d'autres paroisses de différentes dénominations qui sont préoccupées par le même sujet. On est quand même appelé à l'unité des chrétiens, hein, Jean 6, etc. Donc c'est aussi un témoignage dans le monde de travailler avec d'autres chrétiens et ça peut être un facteur de rapprochement important. Ne serait-ce qu'au travers de ce que j'ai montré là, sur les diapositives de rencontres régionales entre différents responsables d'église qui permet de... C'est un peu dommage, je trouve, quand les églises restent un peu fermées sur elles-mêmes et ne prennent pas le temps d'aller partager avec nos frères et sœurs chrétiens. Ils n'ont pas toujours les mêmes idées que nous, mais bon, comme je dis souvent, moi, je vois tellement d'erreurs théologiques chez les autres que je me dis que forcément, je dois aussi en avoir plein et que d'autres doivent voir des erreurs théologiques. Et donc, ça me rend un peu humble par rapport aux erreurs que je peux voir chez les autres et les erreurs, entre guillemets, théologiques et que j'ai aussi forcément, moi.
D'autres questions ou réflexions?
La problématique du label église est assez proche de. Alors, sur un registre très différent, mais du parcours à la fin, parce que vraiment, c'est une mobilité engagée dans le parcours à la fin depuis cette année. Enfin, l'année dernière, déjà, avec les étudiants. Et on est vraiment, c'est l'église qui met en place le parcours avec les membres de l'église. On s'inscrit aussi dans un réseau plus large. Dans lesquels il y a des journées, bah, c'est Nathalie qui était une journée régionale, où il y a voilà, des frères et sœurs catholiques, des formés, des évangéliques. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu du même genre en fait. Il y a un réseau, il y a une institution nationale, voire internationale, mais ensuite c'est à chaque église de s'approprier l'outil et un peu à sa manière. C'est intéressant, en fait, le bilan qu'on avait fait par rapport à trois fois, il est très positif. Enfin, c'est de l'évangélisation, c'est différent, je partage l'évangile, mais je trouve que l'exercice est vraiment un beau initiative.
Je pourrais aller plus loin, les parallèles sont encore plus profonds dans le sens où Nicky Campbell, donc, qui a démarré les parcours Alpha à Holy Trinity Brompton en Angleterre, il est devenu chrétien grâce à une campagne d'évangélisation que Peter Harris, donc le fondateur d'Arocha, a organisée à Cambridge il y a 45 ans. Et c'est donc aussi un mouvement qui est venu d'Angleterre, qui a été traduit en France. Un petit peu comme on a aussi importé. Et puis moi, j'aime beaucoup Alpha. J'ai été aussi à plusieurs des rencontres. Il y a 4-5 ans, j'avais été il y avait les grandes assises nationales là, où il y avait 800 personnes à Paris, je ne sais plus, vers la Tour Eiffel, par là. Et justement, j'étais allé présenter à Rocha avec Peter Harris. Donc on a des très bons rapports avec les groupes Alpha. Hein. Les motivations peuvent être différentes suivant les personnes, les églises. Je pense que c'est tout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire c'est à la fois pour soi, pour s'auto-évaluer et puis progresser, et c'est en même temps une façon aussi de renvoyer aux personnes autour de l'église le fait qu'on se préoccupe de ces questions, que c'est important pour nous et qu'on a envie de faire quelque chose, quoi. Oui, vous recevez un logo, c'est à partir de Oui, alors, en Angleterre, c'est des bancs, des anciens bancs d'église recyclés qui sont découpés, etc. Mais en France, je ne sais plus. Enfin, oui, il y a un logo, il y a un écusson, je ne sais plus exactement. Parce que je sais qu'ils ont, passé un an et demi à en discuter, je ne sais pas ce qu'ils ont fini par décider. Au sein du comité de pilotage, mais comme je ne suis pas au comité de pilotage, je ne suis pas au courant de tous les détails. Et au niveau de l'engagement de l'Église, il n'y a pas d'engagement financier ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, après, vous avez des appels à dons de temps en temps, quand la caisse est bas. Mais sinon, il n'y a pas d'autre engagement. Non, il n'y a pas de prix d'adhésion ou quoi que ce soit.
Question très pratique, puisqu'on va présenter le budget 2020. Tu parlais d'autofinancement, donc tu vas demander à chaque église qui a le label de participer au financement du label.
Alors,
oui, on a l'idée du coût.
Alors, je crois qu'on encourageait les églises à donner 300 euros par an. Je crois que c'était le montant suggéré. D'accord. Mais je sais aussi qu'il n'y a quasiment aucune église qui donne autant. Donc, voilà, c'est plus indicatif et voilà, c'était le entre guillemets le business plan au départ, c'était ça, c'était 100 communautés qui donnaient chacun 300 euros et ça nous permettait de payer le salaire de 2 mi-temps.
D'accord.
On n'a toujours que 2 mi-temps, mais on a 350 églises, donc on a aussi besoin de moins finalement que 300 euros par église. Mais comme depuis ce matin, vous allez tous faire d'énormes économies à Noël, vous allez pouvoir donner plus à votre église et à Arocha. Alors, comme ça, non. Mais encore une fois, je ne suis pas en première ligne d'Église verte. Je suis ça d'assez loin. Je sais que sur le site internet, il va y avoir une partie qui va être des retours d'expérience et des idées émanant des différentes communautés. Donc, je pense que si tu vas te balader sur le site Église verte, si ce n'est pas le cas encore tout de suite, d'ici quelques mois, tu vas avoir de quoi alimenter des bonnes idées, des bonnes pratiques, des choses comme ça. Je pense qu'il y a des... Il y a certainement des tas d'idées, mais je veux dire même ton idée que j'avais trouvée excellente hier de quiz, je trouvais ça très, très amusant, enfin très interactif pour les jeunes, tu pourrais dire, tiens, ben voilà une idée, toi-même, vous-même, vous pourriez contribuer à des idées sur le site d'Église Verte pour faire des retours de remontées d'idées que vous avez, quoi, qui sont originales et qui pourraient tout à fait bien fonctionner dans d'autres contextes.
Autre question. Il y avait une case pour faire voyager notre pasteur en vélo. On a vu qu'il y avait un prêtre qui est sur une diapo avec un vélo. Donc, en haut, ouais, je crois que tu n'y échapperas pas.
Il attend la construction du parking à vélo, je crois.
Ou on fera un montage. Voilà.
Sauf erreur, celui qu'on voyait sur le vélo, c'était pas un prêtre, c'était un pasteur qui habite dans l'Isère et qui est surnommé le pasteur à vélo parce qu'il fait toutes ses visites pastorales à vélo, etc. C'est un gars très engagé dans l'écologie depuis très longtemps et qui fait beaucoup, beaucoup de vélo avec ses enfants.
Mais non. D'autres questions? Non. Donc, ben, il me reste à remercier Jean-François. On sait qui est à Rocha maintenant, c'est bien, parce que moi je l'avais entendu parler, mais maintenant je l'ai vu pour reprendre. Voilà, et c'est plus motivant de connaître les personnes, puis ça change aussi l'idée qu'on s'en fait de l'organisation. Donc merci aussi à nos jeunes adultes, je ne sais pas comment on peut dire, qui ont géré le pilotage de ce week-end. Et donc il nous reste à travailler sur quelques points. J'ai bien compris que pour ne pas déprimer, il vaut mieux travailler sur quelques points précis pour progresser ensemble et ne pas être trop diviseur. Voilà, donc je vais prier pour conclure et puis je vous libère si vous voulez. Merci Seigneur, oui, de nous conduire encore dans notre vie de tous les jours, de nous conduire dans nos comportements, dans nos réflexions aussi sur ta création, de d'aiguiser notre conscience pour savoir ce que tu attends de nous au travail et hors du travail, Seigneur. Et nous te remercions aussi d'avoir mis tant de merveilles devant nos yeux. C'est vrai que la vidéo d'Antidote est superbe, mais ce sont des choses qu'on voit aussi tous les jours, mais on n'y prête pas attention. Et Seigneur, nous te prions de nous aider à être plus attentifs aux merveilles de ta création et à être encore plus adorateurs de ce que tu as fait. Amen. Merci. Donc il y avait, ce matin j'ai dit pour les personnes qui étaient absentes, qu'il y avait une boîte pour Arocha, une boîte d'offrandes pour ceux qui veulent donner. Et puis il reste du café, du gâteau,
Est-ce que je peux juste poser une question? Est-ce que ça serait possible, ce que je vous propose éventuellement d'habitude, j'ai une feuille que je vous distribue si vous voulez recevoir des nouvelles d'Arocha. Vous pouvez inscrire votre email, mais j'ai oublié de prendre cette feuille que j'amène tout le temps avec moi. Et est-ce que par hasard vous avez dans à l'intérieur de l'église, vous avez une liste dans laquelle il y aurait moyen de faire passer un petit message pour que les gens puissent s'inscrire? En fait, vous pouvez aller vous inscrire directement sur la.
D'accord. En haut, on voit les annonces toutes les semaines.
J'enverrai un email à Jean et je ferai passer à tous ceux qui veulent un lien. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus et vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez choisir ce à quoi vous inscrivez, parce qu'on a donc une lettre de nouvelles d'Arocha, une lettre de nouvelles des Courmettes et donc là pour tout ce qui est formation, etc. Puis on a aussi une lettre de prière pour la création, comme je vous disais. Donc vous pourrez vous inscrire à ce que vous voulez en fonction de vos préférences. Voilà. Donc je ferai passer par Jean. Et tout le monde reçoit les emails de Jean?
Jean-Haut.
Ah, c'est le prénom, c'est Jean-Haut.
Ouais.
Ah d'accord, j'ai cru que c'était le nom de famille.
Jean-Haut. C'est Parc. Non, c'est pas grave. Ok.
Merci d'être venu.
Qu'est-ce que j'en fais? C'est lourd, hein.
Ce qu'on fait,
on va le compléter et puis on va
l'envoie. Ou alors, on verra. Ben voilà, c'est mon collègue qui va. Ouais. À la limite, on va